Matière à penser, Dominique Rousset.
Et la première édition ce soir d'une nouvelle série que nous vous proposons d'explorer avec nous, grâce à nos invités venus de disciplines différentes, comme il est d'usage dans cette émission, qui a l'ambition modeste de réfléchir au monde qui vient, au carrefour de l'économie, de l'écologie, de la science et des initiatives citoyennes. Cette semaine donc, il sera question de l'avenir du capitalisme. Un sujet bien trop sérieux pour l'abandonner aux seuls économistes. Ils seront là bien sûr, mais nous entendrons aussi un philosophe, une sociologue et ce soir un grand spécialiste historien d'économie politique. Il vient de faire paraître une somme impressionnante, le capitalisme et ses rythmes, 4 siècles, en perspective, une analyse des crises, des mutations qui ont marqué l'expansion de l'économie mondiale. Il y en a eu beaucoup de ces crises, comme on va le voir, celle que nous vivons est particulièrement violente, et il n'est pas certain que le modèle dominant trouve des réponses appropriées dans les années à venir. Mais alors peut-on le réformer? Faut-il le supprimer? Dans ce cas, par quoi le remplacer? C'est la question un peu vertigineuse que nous posons cette semaine. Le capitalisme est-il soluble dans le 21e siècle? Et en sous-titre, volé à Gramsci et cité par notre invité, l'ère des monstres ce soir. Bonsoir Pierre Dokès.
Bonsoir Dominique.
Pierre Dokès, professeur honoraire à l'université Lumière, Lyon 2, membre du Cercle des économistes. Vous avez aussi fondé un centre autrefois à Valras, devenu le centre de recherche Triangle, où il doit être question pas mal d'économie sociale, j'imagine. Admirateur, disciple, peut-on le dire, de Fernand Braudel. Cette somme, donc une perspective d'économie historique, qui va, dites-vous d'emblée, au-delà de la pensée mainstream et surtout qui recommande, car vous êtes économiste mais historien, très historien, qui recommande de revenir toujours aux théories du passé éclairantes, indispensables pour comprendre le monde d'aujourd'hui, surtout cette crise financière, recours à l'histoire et aux phénomènes intérieurs, Pierre Dokès.
Oui, tout à fait. Si on peut dire, je suis spécialisé dans ce qu'on peut appeler, avec Braudel justement, l'économie historique. C'est-à-dire à la fois les faits, en remontant à l'origine du capitalisme, puisqu'il s'agit justement de cela, et puis les théories, les grandes et les petites théories économiques. Et moi, j'ai surtout travaillé celles qui s'intéressaient aux cycles économiques, aux crises, aux mutations du capitalisme, et à des solutions autres que celles qui englobent le monde entier aujourd'hui.
Avec donc cette référence au passé pour éclairer évidemment les situations d'aujourd'hui et également un plaidoyer pour un travail sur le temps long, ce que l'on a peut-être oublié, y compris chez les économistes.
Absolument. Aujourd'hui, c'est le temps court, voire infracourt qui domine, avec et en partie du fait des phénomènes financiers qui dominent actuellement et qui sont vraiment du temps infracourt, alors que je pense qu'il faut prendre en compte une histoire longue, mais qui peut enjamber facilement le 20e siècle, voire le 19e, et remonter aux sources mêmes du capitalisme.
Si les questions, Pierre Dokès, aujourd'hui, effectivement, de cette remise en question du capitalisme, je dis, est-il soluble dans le 21e siècle? Mais beaucoup de débats aujourd'hui, c'est assez intéressant d'ailleurs, commencent à naître. Les sciences sociales s'emparent du sujet. Les journées économiques de Lyon, pour prendre un exemple, dans votre ville, qui ont lieu chaque année, c'était au début du mois de novembre. Traiter aussi de cette question, faut-il réformer le capitalisme? C'est nouveau cela, et pourtant, ce n'est pas la première fois que l'on discute de la crise, voire de la fin du capitalisme.
Oui, absolument. Pour citer Derrida lui-même s'inspirant de Marx, cette crise du capitalisme et cette fin potentielle ou possible du capitalisme, c'est comme un spectre revenant qui, à intervalles réguliers ou irréguliers, vient comme ça sur le devant de la scène. Et c'est particulièrement intéressant de voir qu'à notre époque, et particulièrement depuis quelque temps, ça revient très fort, cette idée de crise, voire de fin du capitalisme. Bien entendu, ça ne signifie pas qu'on va vers une crise finale du capitalisme, comme disaient les Marx et les marxistes. Il ne s'agit pas de ça, mais la crise est extrêmement sérieuse. Et on l'a vu tout particulièrement il y a une dizaine d'années, cette crise financière extraordinairement grave et qui impactait fortement l'économie réelle. Et on peut commémorer la fin de cette crise depuis 10 ans, puisqu'elle termine en 2009, du moins dans son aspect crise financière. Mais cette crise a révélé...
In extremis, hein, quand même.
Oui,
enfin,
oui.
On l'a sauvée.
Ouais. Mais c'est surtout qu'elle a révélé ce que j'appelle les ressorts profonds de la crise, au-delà des dimensions financières qui ont été essentielles, évidemment, mais qu'on retrouve toujours dans les grandes crises. On a pu observer que ce n'était pas simplement une crise de la finance, des marchés de gros, voire une crise liée à la crise immobilière. C'était beaucoup plus grave et c'est le capitalisme lui-même qui est atteint. Alors la question, évidemment, c'est de savoir dans quelle mesure on pourrait le réformer, dans quelle mesure on peut trouver dans l'avenir, plus ou moins lointain, un nouvel ordre productif qui serait plus efficient et en même temps plus juste. Cette crise, elle prend des aspects très intéressants et particulièrement profonds.
Avant peut-être de l'analyser
elle-même,
est-ce
oui.
qu'on peut remonter un tout petit peu en arrière une autre grande crise que vous liez à celle-ci d'ailleurs? C'est évidemment, il y a 90 ans déjà, la grande crise, la dépression.
Autre anniversaire,
la dépression des années 30. Et en fait, vous faites le lien entre les deux. Mais sauf que pour celle-ci, vous dites que les ressorts très profonds sont encore là. Quelle différence faites-vous entre cette grande récession des années 30 et celle qui pourrait bien nous arriver?
La grande crise des années 30 est unique dans l'histoire par sa violence même, sa durée, sa profondeur. Et à la différence de celle que nous avons connue, elle a duré longtemps et elle a eu des conséquences tragiques. C'est une grande crise du capitalisme. Et ce qu'il faut bien enregistrer et comprendre, c'est que pour en sortir, il a fallu des décennies, il a fallu finalement non seulement la crise elle-même, la sortie de crise, une guerre mondiale, puis encore, peut-on dire, une guerre froide, car les formes que pouvaient prendre les transformations étaient très diversifiées, certaines étant particulièrement monstrueuse, comme on l'a vu avec le fascisme en Italie, le nazisme. Et une autre, peut-on dire, tentative de solution était recherchée par les pays communistes. Finalement, ce qui a triomphé, c'est un capitalisme qui était, qu'on peut considérer comme un libéralisme social ou la social-démocratie, sous des formes très différentes, a permis, grâce à la régulation de l'État, de construire un ordre productif à la fois efficient et relativement équilibré. Relativement, bien sûr, parce qu'il y avait de très graves inégalités.
Qui se sont creusées, comme on le sait, on va y venir maintenant. Donc cette deuxième crise que vous avez rapprochée de la première entre septembre-octobre 2008, en très peu de temps en fait, pratiquement toutes les grandes institutions financières, aux États-Unis en tout cas, ont été menacées de faillite. On a vraiment frôlé la catastrophe. Alors on a surmonté cette crise financière, mais après la sortie de crise, on a un peu le sentiment que tout est reparti comme avant. Et ça n'est pas si étonnant de votre point de vue.
Oui, la crise financière a été d'une violence extrême. En tant que crise financière et immobilière, d'ailleurs, comme toutes les plus grandes crises liées les deux, elle est comparable, le choc, j'entends, à la crise des années 30.
Des années 30.
Et les conséquences sur l'économie réelle se faisaient déjà sentir avec force. Heureusement, il a été possible de s'en sortir, car en particulier la Federal Reserve, sous l'impulsion de Bernanke, a mis en place des politiques monétaires extrêmes, ce qui a permis de se sortir de cette crise.
C'est ça.
Mais dessous, on a vu que ces ressorts profonds de la crise était particulièrement présent.
On a progressé quand même en termes de régulation financière, juste pour en finir avec cet aspect-là.
Oui, on a progressé en termes de régulation financière, mais sur ce plan, les errements qui étaient ceux des années 90-2000 ont continué, en prenant des formes différentes. Mais finalement, il y a toujours un risque important de retour de flamme de ces crises financières.
Alors, ce qui se passe aujourd'hui, un capitalisme qui n'a pas de contre-modèle, hein, je suis sur votre analyse là, qui n'a pas, comme vous dites, d'ennemis extérieurs, ni réels, ni même idéologiques. Vous avez parlé du marxisme qui proposait une théorie inverse à celle du capitalisme. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, qui est l'adversaire du capitalisme aujourd'hui?
Le capitalisme n'a plus d'adversaire que lui-même. Parce que il n'y a pas, à l'échelle du monde, d'autres systèmes qui fonctionnent que ce système capitaliste, mais sous des formes évidemment extrêmement différentes. On a d'une part un capitalisme libéral, libéral j'entends au sens du libéralisme économique, et on a d'autre part un capitalisme contrôlé, animé par l'État, autoritaire, comme évidemment c'est le cas en Chine, je dis autoritaire, voire totalitaire. Et puis, sur le plan politique, on a des formes, en Europe même, de démocrature, comme on dit, d'illibéralisme, qui donnent aussi des aspects assez différents au système économique. Mais en tant que système productif, le capitalisme se retrouve partout à l'échelle mondiale, avec évidemment des niveaux de développement extrêmement différents.
Notamment dans un contexte qu'il faut rappeler, chute de la croissance depuis quelques années maintenant. On a parlé de la formidable croissance chinoise, mais on n'y est plus. Accroissement des inégalités, là je rappelle les choses que chacun sait maintenant, je pense. Et vous l'avez dit, deux formes, hein, autant libérale qu'autoritaire, ça définirait le capitalisme d'aujourd'hui et un seul adversaire lui-même. C'est à peu près la situation dans laquelle on est.
Ça relance la vieille question qui nous faisait sourire en quelque sorte il y a encore quelques années sur les contradictions internes du capitalisme, qui était la vieille musique marxiste. Mais à partir du moment où le capitalisme se trouve n'avoir comme ennemi que lui-même, c'est bien ce problème endogène qui se pose. Et vous l'avez dit, les formes que cette crise prend, forme très aiguë. C'est d'abord une chute assez vertigineuse, étonnante, voire stupéfiante, de la croissance de la productivité qui finit par être très faible, quasi nulle. Et ce phénomène est particulièrement préoccupant, d'autant plus que nous vivons en même temps, si on peut dire, une forme de révolution industrielle, en tout cas la révolution numérique sous ses aspects différents jusqu'à l'intelligence artificielle, ça ne produit plus et nulle part, même dans les pays émergents, même en Chine, une croissance de la productivité. Alors que jusqu'ici, toutes les grandes révolutions industrielles avaient provoqué un sursaut de la productivité. Et comme c'est lié par une croissance très forte, et là aussi, partout, ou presque partout, aussi bien dans les pays anglo-saxons qu'en Chine ou en Russie, c'est lié à une croissance extrêmement forte des inégalités. La France y échappe en partie, du moins, elle y échappe quand on pense à la redistribution.
Voilà, un système de redistribution qui reste
très très fort.
Robuste.
Elle est robuste, en Grande-Bretagne aussi.
Même s'il est très questionné, comme on le sait actuellement.
Oui, enfin. Oui, et c'est un danger d'ailleurs. Mais si on prend la distribution primaire des revenus, la France est un pays extrêmement inégalitaire. Et le résultat des deux, à la fois la chute de la productivité d'une part, et d'autre part la croissance des inégalités, fait que pour les grandes masses de la population, il y a une stagnation, voire une perte de pouvoir d'achat. Et ça, c'est évidemment très important, alors que les salaires n'augmentent plus. Ils n'augmentent même pas comme la productivité. La productivité augmente très peu, les salaires augmentent encore moins, et de moins en moins. Alors ça laisse une place pour l'augmentation des profits. On est dans une situation très étonnante, très paradoxale, où la productivité n'augmente plus, où, pour prendre un concept de Wicksell, le taux d'intérêt naturel est quasi nul. À ce moment-là, on pourrait s'attendre à ce que le taux de profit soit très faible, voire décroissant, mais c'est pas du tout le cas. Au contraire, le taux de profit a continué à s'accroître, essentiellement d'ailleurs du fait d'une forme de prédation sur les salaires.
Je reviens un petit peu en arrière sur, je parle à l'historien ici, sur au fond la définition du capitalisme. Capitalisme libéralisé, est-ce qu'on est bien sûr qu'on est capable de les distinguer aujourd'hui
le point
et même en remontant
crucial,
dans l'histoire que à quel moment est apparu le terme au fond?
Alors, d'abord,
capitalisme, pas libéralisme.
D'abord, il faut savoir que ni les classiques, pensons à Ricardo et Malthus ou Stuart Mill, ne parlent de capitalisme. Marx lui-même ne parle pas de capitalisme. Il connaît pas ce mot en isme. Il parle de mode de production. Capitaliste, c'est quand même très très proche. Et c'est par la suite, c'est un auteur allemand qui s'appelle Sombart qui a créé le mot capitalisme. Et peut-être même l'a-t-il créé en référence au mot socialisme qui était antérieur au mot capitalisme, qui est assez amusant si on y pense. Mais ça nous définit pas, ça ne permet pas de préciser le capitalisme. Et en fait, il y a plusieurs façons de l'appréhender. Une première façon très courante, c'est évidemment de l'assimiler à l'économie de marché libre.
C'est le terme de libre qui est important ici, non?
Oui.
Tout est libre, les capitaux, les travailleurs, les finances.
Voilà, c'est ça. Les marchés sont libres, ouverts, et pas nécessairement concurrentiels, loin de là, puisque l'évolution du capitalisme s'est faite par la concentration des entreprises vers des situations de monopole, de monopolisme, pour employer encore un mot en isme. Et cette première définition du capitalisme, elle a été particulièrement forte et puissante dans l'opposition qu'il y avait avec le communisme. Alors, il y avait les pays de libre marché et les pays de socialisme réel, comme on disait. Mais c'est une façon de définir le capitalisme qui est quand même très limitée. Et vous parliez de Fernand Braudel, des historiens de l'école des annales comme lui ou Immanuel Wallerstein mettaient l'accent très fortement sur le fait qu'il y avait une distinction à faire entre l'économie de marché qui, elle, tend plutôt à la concurrence et le capitalisme qui tend plutôt au monopole. Mais bien sûr, quand on pense au capitalisme, il faut aller au-delà de cette définition par l'économie de marché. Et je vois deux points qui me semblent importants. Le premier, ou un premier type de définition, disons à la Marx, met l'accent à la fois sur la propriété privée des moyens de production, bien sûr, met l'accent sur l'exploitation des travailleurs, mais aussi, et c'est très important, sur un phénomène d'accumulation du capital qui se fait sans limite naturelle, sans limite sociale, sans limite géographique.
Avec l'idée que les limites vont se trouver d'elles-mêmes ou qu'il va s'auto-réguler, comme on dit?
Avec surtout une réalité, c'est qu'il pousse toujours à la limite. Je pense que pour remonter le temps, l'histoire de la pensée, des idées politiques aussi, je pense qu'un auteur comme Thomas Hobbes, au milieu du XVIIe siècle, avait caractérisé l'homme, finalement, la vie en société humaine, aussi par une recherche illimitée de pouvoir après pouvoir. Et le capitalisme, c'est finalement une situation où cette recherche effrénée du pouvoir prend la forme d'une accumulation de capitaux. Et finalement, on retrouvait déjà ça chez Aristote, avec la mauvaise crématistique, comme il parlait, selon l'expression retenue. Et cette mauvaise crématistique...
Qui veut dire crématistique? Pardon de vous demander la définition.
Alors, la crématistique, c'est la recherche de l'argent pour l'argent. Au lieu d'avoir un circuit marchandise s'échangeant contre de l'argent, lui-même s'échangeant ensuite contre des marchandises, marchandise, argent, marchandise, on a un autre circuit, qui est donc la mauvaise crématistique, c'est argent, marchandise, argent ou plus d'argent.
Et toujours plus.
Toujours plus d'argent, mais alors, toujours plus d'accumulation du capital. Et puisque vous posiez cette question, les limites, le capitalisme a comme caractère fondamental d'aller toujours plus loin, sans limite, effréné. Il est potentiellement et par essence toujours poussé à aller au-delà même des possibilités sociales naturelles ou géographiques, alors, d'où la mondialisation.
Naturelle, j'allais y venir. Accumulation sans limite du capital, on a bien compris, sans limite sociale, puisqu'après tout, tout va être permis, mais aussi sans limite naturelle, c'est-à-dire même si ces limites sont relatives, comme on le sait. Et là, on arrive évidemment sur le terrain des enjeux environnementaux que n'avaient pas prévu ses premiers penseurs, mais on y est, non ?
Alors, que ces premiers penseurs ne l'aient pas prévu...
C'est pas tout à fait juste.
C'est pas tout à fait juste. Non. Et c'est même particulièrement intéressant de noter que les classiques, Ricardo, Malthus, Stuart Mill, avaient mis l'accent sur les rendements décroissants dans toutes les activités qui utilisaient la nature. C'était la nature avaricieuse, finalement, qui avait d'ailleurs donné les développements de Malthus sur lesquels tous s'accordaient. Et ça expliquait pour eux la tendance à la baisse du taux de profit, et ça nous amenait, expliquait-il, vers une économie stationnaire. Alors, il ne s'agissait pas de la fin du capitalisme, il s'agissait, en revanche, de la fin du dynamisme de ce système économique qui portait pas encore le nom de capitalisme. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que pendant des siècles, le capitalisme s'est construit sur des formes diverses de prédation de la nature, qui vient en quelque sorte s'ajouter à la prédation salariale. Et cette prédation sur la nature, elle atteint aujourd'hui ses limites.
Pour le coup, elle atteint vraiment les limites.
Et un des aspects dès lors de la crise du capitalisme, c'est qu'il atteint les limites naturelles, ce qui provoque un phénomène d'une gravité tout à fait exceptionnelle.
Écoutez ceci, Pierre Dauques.
Et mon sucre. Mon sucre. Où donc ai-je bien pu mettre ce sucre ? Oh, ce sucre, ce sucre. Et vous n'avez pas vu mon sucre, non ? Enfin, je l'ai retrouvé, mon sucre. Et j'en avais bien besoin pour me remonter, mon vieux.
Matière à penser, Dominique Rousset.
En compagnie de Pierre Dauques, professeur honoraire à l'Université de Lyon 2, et un petit clin d'œil à son attention, il a écrit un ouvrage, Le sucre et les larmes. Vous venez de parler de mondialisation et vous aviez fort bien montré, d'un livre très historique aussi d'ailleurs, hein, toute l'histoire de ce produit indispensable qui a fait le tour du monde et dont plus personne ne saurait se passer. Le sucre.
Surtout, il s'agissait du sucre de canne. J'avais étudié dans Le sucre et les larmes, j'avais étudié la formation des plantations sucrières dans le temps long, justement, en remontant jusqu'à l'Antiquité, mais pour être sérieux, en discutant surtout sur ce qui s'était passé à partir du XVIIe siècle dans les îles à sucre, et en mettant en relation la production de sucre de canne et ce rapport social particulièrement effroyable qu'était l'esclavage. Mais j'étais venu effectivement jusqu'au morceau de sucre. Donc le sucre aujourd'hui, là, il est remis en cause sur le plan nutritif et même d'une certaine façon sur le plan éthique. Ça donne une nouvelle actualité à ce bouquin.
Et à ce produit.
Et à ce produit.
Alors, restons encore un peu sur l'histoire de la pensée. Le capitalisme, dont vous l'avez défini et bien décrit, on va arriver évidemment à la situation d'aujourd'hui. Début du 21e et au milieu du 21e, il y a peut-être encore deux chercheurs, enfin deux grands penseurs auxquels vous pourriez faire référence sur l'aspect du capitalisme puissant qu'ils remettent un peu en question, Schumpeter et Polanyi. Mais on va expliquer pourquoi vous avez choisi de mettre l'accent sur ces deux-là.
Oui, effectivement.
Je parle toujours de votre ouvrage sur les capitalismes.
Schumpeter, bien sûr, Schumpeter et Polanyi mettent l'accent sur un capitalisme qui est essentiellement défini par l'initiative privée. Schumpeter, par exemple, est un grand admirateur de Marx, mais il ne prend pas le capitalisme au même sens que Marx. Pour lui, il s'agit vraiment du capitalisme libéral qui était très clairement en grave crise lorsqu'il écrivait. Il écrit « Capitalisme, socialisme et démocratie », sa première édition, 1942, c'est écrit en fait pendant les années 30. Et après quelques chapitres très intéressants sur Marx, qui est d'une certaine façon son maître avec Valras, ce qui fait vraiment une alliance étonnante. Et après ces quelques chapitres, il commence par cette phrase qui est absolument célèbre, qui est sans doute la plus célèbre de l'économie politique, qui est la réponse à la question qu'il se pose à lui-même, le capitalisme peut-il survivre? Et sa réponse, c'est « Non, je ne crois pas qu'il le puisse ». Et quand on analyse sa réponse, on s'aperçoit que les raisons pour lesquelles le capitalisme ne peut pas survivre, pour lui, ne sont pas strictement économiques, loin de là, ou plutôt ne sont pas strictement économiques, si on pense à l'économie mainstream, définie stricto sensu. En réalité, pour lui, le capitalisme non seulement a été capable d'un accroissement fantastique de la productivité, de la croissance, du bien-être, des pouvoirs d'achat, enfin quelque chose de fantastique, reprenant d'ailleurs Marx, en particulier le manifeste du Parti communiste, et il reprend la même idée, mais il s'en distingue fondamentalement en disant qu'il n'est pas du tout épuisé à son sens, et que le capitalisme est capable de prouesses encore formidables, ou plutôt serait capable, si l'ambiance sociale n'avait pas profondément changé du fait même des succès du capitalisme. Ce sont bien ces succès qui finalement ont sapé ses bases. Les défenses du capitalisme se sont effondrées, explique-t-il. Et en particulier, il note que les anciennes structures sociales pré-capitalistes ont disparu. Il insiste sur le fait que l'entrepreneur qui, pour lui, est au cœur du système, qui prend les initiatives fondamentales en innovant, les grandes innovations tout particulièrement. Pour lui, cet entrepreneur n'est plus l'entrepreneur privé, cet homme d'exception, mais devient finalement des équipes de chercheurs dans des très grandes entreprises monopolistes. Finalement, l'innovation, dit-il, est devenue routinière. Mais surtout, il met l'accent sur le fait que l'hostilité monte contre le capitalisme et aujourd'hui, c'est très important.
Hostilité dans les couches populaires, mais pas seulement.
Non.
Aussi
seulement dans les couches
ou...
populaires. Et on peut s'attendre à ce que dans les couches populaires, cette hostilité augmente. Mais aussi, en particulier, voire tout particulièrement chez les intellectuels.
Eh oui.
Et c'est surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui au premier chef, la classe moyenne. Il faut bien comprendre, si on en reste à notre époque, que quand on parle de la baisse du pouvoir d'achat, c'est pas simplement l'augmentation forte, et surtout dans certains pays, du paupérisme, mais c'est aussi le fait que la grande classe moyenne perd en pouvoir d'achat, et le choc est particulièrement clair en France pour les basses couches moyennes, avec les gilets jaunes, mais aussi dans les fractions plus élevées de cette classe moyenne qui subissent des conséquences assez ravageuses de l'évolution en termes d'inégalité. Parce que c'est surtout les 1%, voire les 0,1% qui ont tiré leur épingle du jeu, absorbant la quasi-totalité des maigres gains de productivité depuis 30 ans. 1% ou 0,1%. Alors ça, c'est Schumpeter. Et il nous montre cette hostilité
grandissante, voilà.
Libéral. Là, essentiellement, il vise le capitalisme de libre initiative.
Il faut quand même préciser, Pierre Dauquez, que s'il relève tous ces faits qui sont avérés, c'est pour s'en attrister, hein, pas pour s'en réjouir.
Ah, tout à fait. À la grande différence de Marx, bien sûr.
Voilà.
Schumpeter est un homme qu'on pourrait dire d'ancien régime, pratiquement. Il a un côté aristocratique. Déjà, la bourgeoisie, c'est pas ce qui lui plaît fondamentalement, mais il est passionné par les grands hommes d'exception, les entrepreneurs. Mais il considère que le système qui vient, qu'il appelle socialiste, mais qui est en fait un système dirigiste et étatique, est quelque chose de très triste.
Alors, d'un mot, Polanyi, je voudrais qu'on ait le temps aussi de montrer la situation actuelle.
Alors, d'un mot pour Polanyi, mais vraiment d'un mot. Son idée, c'est que le système de libre marché, autorégulateur, ne fonctionne pas, ou plutôt ne fonctionne qu'en détruisant la société. Et il pense que ce système est une véritable dystopie qui a été créée au début du 19e siècle, et qui ne pouvait pas durer parce que la destruction de la société que ce système produit ne peut que provoquer une réaction de la société et du politique. Finalement, quelque chose qui nous ramène à l'État qu'il considère comme naturel, en quelque sorte, qui est un État où il existe une régulation étatique et que cette régulation permet la survie harmonieuse ou relativement harmonieuse de la société. Et il considère que, du coup, à la suite de ces libres marchés autorégulateurs du début du 19e siècle, il y a eu forcément mise en place de cette réaction de la société qui commence finalement dans les années fin 19e, dans les années 1890, avec la montée du protectionnisme, avec des réformes sociales importantes, qui va s'approfondir avec évidemment la grande crise et les sorties de crise, ce qui a été fait aux États-Unis, mais aussi, et c'est là où ça devient à la fois complexe et dangereux, des réactions qui vont vers l'autarcie, d'une part, et d'autre part, vers des régimes autoritaires, voire totalitaires. C'est là qu'il note le danger. La société réagit parce qu'elle est détruite par la dystopie, mais elle réagit de façon très différente et les possibilités sont très diverses. L'État, dans tous les cas, est monté en puissance, mais dans certains cas, il est monté en puissance avec le fascisme ou le nazisme ou le communisme. Et dans d'autres cas, on a trouvé des solutions de socialisme démocratique. Oui. Et c'est lui qui a triomphé pour une période.
Et en vous écoutant, Pierre Dauquès, on est obligé de revenir aux années de ce début du 21e siècle, et d'ailleurs notre sujet. Donc, que deviendra le capitalisme dans ce 21e où l'on sent monter partout contre lui de l'hostilité? Il faut quand même le présenter comme ça, et ça éveille beaucoup d'écho dans ce que vous venez de dire de ces périodes-là. En bas, donc, cette classe moyenne dont vous avez parlé, la peur du déclassement, la perte du pouvoir d'achat, on retrouve tout cela. Une classe moyenne un peu déstabilisée, qui craint pour ce que sa descendance vive moins bien qu'elle. Et bien sûr, encore en dessous, si j'ose dire, la classe des, enfin, les gilets jaunes, tous ceux qui s'estiment maltraités, oubliés, voire humiliés.
Oui, c'est
situation dangereuse, je prononce le mot.
Alors, c'est dangereux, bien sûr, c'est dangereux. Finalement, quand je disais que le capitalisme va continuellement à ses limites sociales, il est profondément destructeur de ses bases sociales. Non seulement pour les couches populaires, mais aussi il tente à paupériser les classes moyennes. Il faut bien comprendre que la grande classe moyenne, c'est un soutien de la démocratie, c'est un soutien du libéralisme social. Et cette crise atteint aujourd'hui tous les pays capitalistes, sous sa forme libérale ou sous ses formes autoritaires. Et on le voit par les mouvements sociaux. Parce que pour les pays émergents, on avait, avec l'émergence économique, l'émergence d'une grande classe sociale qui porte en elle, ou on pourrait dire qui parfois portait en elle, l'espoir d'un développement, d'un capitalisme raisonnable, d'un capitalisme régulé. On voit dans ces pays, je pense évidemment en Chine, à Hong Kong, aux pays du Moyen-Orient, au printemps arabe, tous ces mouvements sont en partie issus de ces classes moyennes et populaires dans une nouvelle alliance qui porte en elle à la fois de grands espoirs et aussi un certain nombre de dangers dans la mesure où la répression de ces mouvements est toujours possible.
Alors je m'adresse à l'historien, mais je vais quand même lui demander de faire un peu de prospective. Que peut-il se passer ? Alors, la chute du capitalisme est possible, il n'y a pas de système concurrent crédible.
Voilà, alors que peut-il se passer ? D'abord, jusqu'ici, le capitalisme, face à ces grandes crises, a toujours réussi ses métamorphoses.
Il s'en est toujours sorti.
Il s'en est toujours sorti. Ouais. Mais attention, quand on dit ça, il faut bien voir qu'il s'en est sorti avec un coût humain et un coût social et un coût politique qui est exorbitant. Si on revient une seconde sur ce qui s'est passé lors des précédentes grandes crises, fin 19e, années 30, on voit qu'il a fallu en passer par des guerres, par des crises majeures, par la montée des périls et puis la montée de ces monstres.
Par des souffrances sociales terribles.
Donc des souffrances sociales. On peut dire que le passage du capitalisme libéral début 19e siècle à un système de capitalisme organisé, plus raisonnable et plus régulé, a pris presque un siècle. En tout cas, entre les années 1880 et les années 1945. Or, aujourd'hui, face à cette crise, premièrement, on n'est pas du tout sûr que le capitalisme puisse effectivement s'en sortir. Deuxièmement, on n'est pas sûr de la forme que ça peut prendre. Et les formes peuvent être tragiques. Et enfin, on ne sait pas si ça ne va pas se faire à un coût social exorbitant. Alors, ce qu'il faut espérer, et en même temps, ce qu'il faut souhaiter, c'est la possibilité d'une réforme en profondeur du capitalisme vers le libéralisme social, vers le socialisme libéral, vers des formes qui sont pour le moment rendues quasi impossibles par le phénomène de mondialisation.
Alors j'allais y venir, c'est la mondialisation. Donc est-ce que la démondialisation, pas sous quelle forme elle pourrait intervenir, serait une solution ?
Attention.
Avec les risques de protectionnisme.
Attention.
De repli.
Je crois que là aussi, la mondialisation, qui en soi est une grande chose et une espérance, a permis de sortir des centaines de millions d'hommes de l'extrême pauvreté. Ne l'oublions pas. L'Inde, la Chine, etc. et d'autres pays émergents. La mondialisation est allée trop loin. On est toujours dans cette situation où le capitalisme va à ses limites, comme s'il testait ses limites
géographiques. On continue dans le sans-limite.
Et on continue dans le sans-limite. Et la mondialisation est allée trop loin. Et l'économiste turco-américain Roderick, en particulier, a depuis déjà un certain nombre d'années insisté sur cet aspect. La mondialisation est allée trop loin. Elle était déjà pas mal, disons, en 1990. Depuis 20 ans, on a continué et maintenant on en met encore une couche avec des traités.
Le Mercosur,
les
TAFTA et autres.
Exactement.
Il faut y renoncer.
Non seulement il faut y renoncer, parce que aller encore plus loin est particulièrement dangereux, surtout que maintenant il s'agit plus seulement de libre-échange de marchandises, de libre-échange de capitaux, mais il s'agit aussi de ces règlements par arbitrage qui permettraient de limiter très fortement les possibilités pour l'État de réguler son économie. C'est très dangereux, c'est dangereux pour l'agriculture, pour l'industrie, etc. Mais je pense qu'il faut aller plus loin et il faut mettre en place un recul progressif, multilatéralisé, si c'est possible,
très franchement,
de la mondialisation.
Très franchement, Pierre Decaisse, vous n'y croyez pas. L'ordre multilatéral est en train d'exploser en vol, si on
ose
dire.
Alors, ce serait catastrophique qu'on aille vers des guerres commerciales, des guerres douanières, de plus en plus grave. Trump est dangereux en cela qu'il insiste sur le bilatéralisme, ou plutôt sur l'unilatéralisme américain. Donc là, il y a un danger, et on le voit très bien aussi par l'histoire, parce que le protectionnisme qui s'était mis en place face aux destructions que la première mondialisation avait provoquées à la fin du 19e siècle, ce protectionnisme était un protectionnisme tempéré, modéré. Et il avait permis de maintenir l'essor économique et il avait permis des réformes sociales importantes. Alors qu'en revanche, dans les années 30, on a eu un protectionnisme exacerbé avec guerre commerciale, les États-Unis ayant commencé déjà. Ils ont une tendance très très forte à revenir tout le temps vers des chocs protectionnistes unilatéraux. Et là, ils l'avaient fait et ils croyaient pas qu'il y aurait des rétorsions. Ou ils pensaient pas que les rétorsions allaient être de cette ampleur. Ouais. Elles ont été gigantesques. Et finalement, c'est la totalité du commerce mondial qui a sombré. Et ça a aggravé la crise, même si c'est peut-être moins grave que ce qu'on a pu dire. N'empêche que ça arrivait à un très très mauvais moment. Or, ce qu'il ne faudrait pas, c'est aboutir à une fermeture. Bien entendu, tout ce qui est fermeture est particulièrement dangereux. Mais c'est pas une raison pour plaider pour une mondialisation sans limite et un retour sur des bases plus saines, ouais. Dans la mesure où ce serait possible de revenir au multilatéralisme. C'est pas totalement impossible, parce qu'on va se rendre compte à quel point c'est dangereux, ces rétorsions les unes sur les autres.
Oui, mais le pouvoir est toujours entre les mains. Alors, ne parlons pas des grandes entreprises géantes capitalistes qui débordent même les États. On voit bien ce qui se passe aux États-Unis. Même chez nous, ça ne rend pas très confiance, hein, quand même.
Alors, c'est un des risques réels, lourds, d'une évolution négative. Parce que on voit bien que le pouvoir entre les mains de ces très grandes entreprises ne pousse pas à la réforme, bien au contraire.
Et c'est là que nous arrivons à notre titre du début. J'ai appelé votre émission ce premier soir sur notre série autour du capitalisme « L'ère des monstres ». Et bien sûr, c'est vous qui le faites, hein, mais c'était pour citer Gramsci. « Le vieux monde », c'est plus beau en italien, mais tant pis, je vous le lis en français. « Le vieux monde est en train de mourir, le nouveau tarde à apparaître ». Et c'est dans ce clair-obscur que naissent les monstres.
Cette phrase de Gramsci est effectivement tout à fait fondamentale. Elle est fondamentale et elle est caractéristique d'une pensée qui est la pensée de cette période où les monstres sont vraiment apparus. Il faut bien le resituer dans son contexte. C'est la crise des années 30, c'est le fascisme en Italie. Quand Gramsci écrit ça, il est en prison et il était mis en prison par les fascistes. Lui était, comme on le sait, communiste. Et il met l'accent sur ce qui pourrait, de nos jours, arriver aussi. Parce que le capitalisme, dans sa crise, à des formes qui ne peuvent qu'être modifiées. Il faut effectivement espérer qu'une réforme sera possible, mais on ne peut pas discerner encore clairement quelle forme aura le monde futur. Et c'est dans cet intervalle, dit-il, que naissent les monstres. On en est là.
Merci Pierre Docquès. Oui, merci infiniment à Pierre Docquès pour ce parcours sur toute l'histoire, hein, la longue histoire des crises du capitalisme sur 4 siècles. Je le répète, c'est paru au Classique Garnier, ouvrage important, plusieurs tomes. Il faut un peu de courage pour l'aborder, mais c'est très utile, notamment pour les professeurs d'économie et pour tous ceux que ces sujets passionnent. Je voudrais aussi citer Pierre Docquès, un ouvrage que vous avez signé avec Jean-Hervé Lorenzi et Pierre Berbris, qui s'appelle « Face à la violence technologique », hein, vous y avez fait allusion. L'ère numérique technologique qui se développe, porteuse d'espoir, mais très intrusive aussi, on va y revenir d'ailleurs nous, dans nos émissions de cette semaine, et puis beaucoup d'autres ouvrages, notamment « Le sucre et les larmes » auxquels nous avons fait référence à notre manière. Merci encore. Et demain, la suite de notre série. En attendant, notre petite équipe vous salue bien. Laure Chanel qui a réalisé l'émission avec Benjamin Vignal ce soir. Sandrine Chaperon, Catherine Donné, Justine Wild. Et ce soir, Mélissa Foust pour la préparation, pour la documentation. Très bonne soirée à tous et à demain. Thank you.